Chers frères et sœurs et chers amis, notre onzième étude a comme titre « Christ tout et en tous ». La Bible nous dit dans Colossiens, au chapitre 1, verset 18, « C'est lui aussi qui est la tête du corps, le chef de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que toute chose il tienne le premier rang. Oui, qu'en toute chose, c'est lui, Christ, qui doit tenir la première place. » Colossiens, chapitre 1, verset 18. Et nous sommes toujours dans Colossiens, au chapitre 3, mais cette fois, verset 11, il est dit « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni esclave, ni homme libre, mais seulement Jésus-Christ, et tout et en tous. » Colossiens, chapitre 3, verset 11. Voyez-vous, la science a fait de sérieux efforts durant ces dernières années, et ceci pour mettre à la portée de tous et de chacun de nous l'immensité de l'univers. Les savants ont réussi à condenser les questions les plus vastes et les plus profondes de l'étude et des recherches scientifiques sous la forme de traités populaires. Et c'est par centaines de milliers que se sont vendus ces ouvrages de vulgarisation. Cela prouve à quel point le monde s'intéresse à l'explication de l'univers, à celle de la création, de l'histoire de l'homme et à tous les mystères de la nature. Et cependant, quand on arrive au bout de cette lecture, l'on ne peut se défendre d'une impression de vague, d'insuffisant, d'inachevé et du sentiment que l'on n'est pas arrivé à une conclusion claire et définitive. Ceci peut paraître présomptueux, mais nous croyons posséder la réponse positive et finale à cette question tant débattue. Pour nous, il y a une explication, une seule mais définitive et concluante de l'univers, et cette explication se trouve en Jésus-Christ. C'est une personne. C'est lui la personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est donc l'origine et le centre éternel de tout ce qui existe. Quelle que soit la profondeur de nos études, nous ne trouverons pas l'explication même partielle de l'univers tant que nous n'aurons pas reconnu la place que Dieu a donnée à toute l'éternité au Seigneur Jésus. C'est Dieu qui a donné de toute éternité, absolument tout, à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et ça, c'est une réalité. Christ est donc tout et en tous, embrassant l'univers tout entier. D'éternité en éternité, Christ est l'explication de tout ce qui a été, de tout ce qui est et de tout ce qui sera. C'est ce que nous cherchons, chers amis, à voir durant ce CD. Christ tout et en tout. C'est donc l'explication de la création elle-même. Nous savons naturellement, chers amis, que cette lettre aux Colossiens déclare cela dès le chapitre 1er. Elle nous dit que c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les autorités, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est une déclaration très vaste et elle établit clairement que Christ est en tout et en tous et l'explication de la création toute entière. Nous voyons maintenant beaucoup de choses qui ne reflètent pas le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Mais le jour vient où vous ne verrez en moi rien d'autre que lui et où je ne verrai en vous que le Seigneur Jésus-Christ. Et ceci conforme à l'image de son Fils bien-aimé selon Romains chapitre 8 verset 29. Cette gloire morale exprimée et manifestée, Christ tout et en tous, Dieu l'a voulu et décidé, et ce que Dieu a déterminé, eh bien, il l'aura. C'est donc là l'explication de la création, que Christ soit tout et en tous, et qu'en toute chose, il est la première place. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul fait à cet égard une déclaration remarquable. En effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient manifestés, car la création a été assujettie à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'y a assujettie. Et elle espère qu'elle aussi sera délivrée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création ensemble soupire et qu'elle est comme en travail. C'est écrit dans Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Tout cela remonte jusque dans l'éternité passée et est lié au Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils bien-aimé, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Romains chapitre 8, verset 29. Le premier passage que nous avons cité contient une déclaration formelle et une implication très claire. La déclaration, c'est que la création a été soumise à la vanité et que son état actuel est la servitude de la corruption. L'implication évidente, c'est qu'à un moment définitif, à cause de la corruption, la création tout entière a été soumise à la vanité et que ses soupirs et ses douleurs ont été frappés de stérilité. Et c'est à cet égard que l'on peut comprendre toute l'étendue et la nature de l'intervention de Satan dans la création. Par cette intervention terrible, le dessein suprême de Dieu a été défié et mis en échec, et la porte a été ouverte à la corruption. Cette corruption devint si universelle qu'une sentence de vanité fut prononcée sur la création toute entière. L'effet produit par cette sentence, c'est que la création ne put jamais et ne peut pas arriver à la raison de son existence sur une base autre que celle de la sainteté et de la ressemblance de Dieu. Et c'est ici qu'intervient aussi toute la portée de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par l'œuvre universelle qu'il a accomplie sur la croix, et par la croix, Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable et virtuellement, eh bien, le diable lui-même. Par la puissance de sa nature et de sa vie sans péché, par l'efficacité de son sang incorruptible, il a détruit le péché et la corruption et il a acquis la justification et la sanctification pour tous ceux qui croient. Ceux-ci deviennent, par la régénération, une nouvelle création en Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et c'est par ce moyen seul que la création peut être délivrée. Quand ces fils de Dieu seront manifestés, leur nombre étant au complet, et que tous ceux qui ont refusé ce salut auront été bannis du royaume de Dieu, alors la création sera délivrée et sa destinée originelle sera enfin atteinte. Christ sera tout et en tous. Ensuite, en second lieu, nous avons l'homme qui est la part centrale de la création. Selon la terminologie biblique, l'homme veut dire la femme et l'homme. Il n'y a donc aucune homophobie dans la Bible. Donc, comment expliquer l'homme et la femme? Que n'a-t-on pas écrit et que n'écrit-on pas encore sur l'explication de l'homme et de la femme, sur l'histoire de l'évolution des mollusques et toute la préhistoire de l'homo sapiens? Comment expliquer Adam, le premier représentant de la race? Il y a dans les Écritures un petit passage qui répond à cette question. Adam est l'image de celui qui devait venir, selon Romains, chapitre 5, verset 14, c'est-à-dire Jésus-Christ. Une image de celui qui devait venir, voilà donc l'explication de l'homme. L'explication de l'homme, la voici, c'est l'intention de Dieu. Oui, l'intention de Dieu, c'était, croyez-moi, que chacun, et femme et homme, entrant dans ce monde, soit conforme à l'image de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Mais malheureusement, des multitudes manqueront ce but. Mais il y aura aussi des multitudes telles que personne ne saurait les compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui y parviendront glorieusement. Quelle haute vocation, chers amis! Quelle conception différente de la destinée de l'homme! Et quelle perte ce serait que de manquer un tel but! Et cependant, combien n'y en a-t-il pas qui vont répétant sur un ton désabusé que s'ils avaient eu voix au chapitre, ils ne seraient jamais entrés dans ce monde, et s'ils n'en avaient tenu qu'à eux, ils n'auraient jamais choisi de naître. Voyez-vous, lorsque nous revenons à cette pensée de Dieu qui veut que nous devenions conformes à l'image de son Fils bien-aimé, qui veut un univers peuplé d'hommes et de femmes rendu conforme à l'image de son Fils Jésus-Christ, et qui soit pour lui une expression, une manifestation universelle de Christ glorifié, de la gloire du Père. Oui, nous disons que c'est un privilège, un honneur pour lequel il valait la peine de naître, croyez-vous pas, chers amis? Donc, mes chers amis, quand nous disons « Christ est tout et en tous », nous avons aussi dans ces mots l'explication de la rédemption. Quelque chose de sinistre a paru. Quelqu'un s'est interposé dans le dessein de Dieu. L'objectif divin ne pouvait être perdu sans retour, mais cet autre n'en est pas moins intervenu avec son plan à lui, résolu à faire obstacle par tous les moyens en son pouvoir à ce déploiement universel de la gloire de Jésus-Christ. Jamais, s'il peut l'empêcher, Christ sera à tout et en tous. Il fera tout pour l'empêcher. Cet autre, c'était celui qui avait convoité cette gloire pour lui-même. Oui, celui qui voulait être le Seigneur universel du ciel et de la terre. C'était donc lui, Satan. Et cette intervention de Satan a changé les choses du tout au tout, mais pour un temps seulement. Il a séduit l'homme et a rendu l'homme différent de ce que Dieu avait voulu. L'image divine a été altérée. C'était la ruine du dessein de Dieu. Sans la rédemption, eh bien oui, c'est la rédemption en d'autres termes. C'est donc la croix du Seigneur Jésus-Christ qui est cette rédemption. Quelle est l'explication de la croix, chers amis? Comment expliquer le double aspect de cet acte insondable? D'une part, toute cette œuvre expiatoire et rédemptrice par laquelle le Seigneur Jésus a réglé cette question du péché, prenant sur lui le péché universel, acceptant d'être fait malédiction à notre place. Et pourquoi cela? Et pourquoi, d'autre part, cette œuvre subjective qui en est le complément et par laquelle donc la croix est implantée dans le cœur du croyant, si bien que par une expérience spirituelle, il devient uni à Christ par la conformité à sa mort et entre donc dans la tombe avec lui. Pourquoi cette application de la croix si douloureuse et si terrible à traverser? Oui, cette désintégration du vieil homme, cette vivisection du corps de la chair, ce dépouillement de l'être extérieur, cette expérience intérieure de la puissance de la croix, si terrible pour la chair. Où en est l'explication? Et pourquoi? Oui, pourquoi, chers amis? Eh bien, tout simplement pour que Christ soit tout et en tous. Pourquoi sommes-nous brisés? Et c'est pour faire place au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi sommes-nous jetés dans la poussière par le Saint-Esprit lorsque il accomplit en nous la mort de la croix? C'est pour que le Seigneur Jésus-Christ prenne en nous la place occupée auparavant par la chair. Nous interprétons bien, oui, bien mal, quelquefois cette application de la croix. L'ennemi est toujours à côté de nous, avec ses insinuations malfaisantes. Nous suggérons la pensée que Dieu est cruel, c'est ce qu'il veut nous faire croire, que Dieu n'est pas bon, qu'il nous écrase, et il nous humilie, nous anéantit en quelque sorte. Il nous laisse entendre que nous ne verrons jamais la fin de cette épreuve, et fait tout pour nous ébranler, pour nous écraser. Mais la croix, bien-aimée, n'a d'autre but que de faire devenir le Seigneur Jésus-Christ tout et en tous pour nous. Et je vous le demande, à vous tous qui connaissez quelque chose de cette expérience, n'est-il pas vrai que le chemin par lequel le Seigneur vous a fait passer, la manière dont il a appliqué la croix dans votre vie, vous faisant devenir une même plante avec lui dans sa mort et son ensevelissement, et vous ont donc amené à connaître le Seigneur Jésus-Christ comme vous ne l'avez jamais connu auparavant? N'est-ce pas par ce cheminement-là qu'il vous est devenu 100 fois, même 1000 fois plus cher et précieux? N'est-ce pas précisément à cause de ces expériences qu'il est devenu pour vous ce qu'il est maintenant? Oui, chers amis, c'est par le chemin de la croix que le Seigneur Jésus devient tout et en tous. Nous savons très bien que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, c'est notre chair. Cette chair ne nous donne aucun repos et aucune paix. Elle nous obsède, nous absorbe, se met sans cesse au travers de notre chemin pour nous enlever la joie même de vivre. Ce moi cruel, oh comme il se débat, oh quel faut-il donc faire? Oui, que faut-il faire? Eh bien, ce qu'il faut en faire, c'est dans la croix et par la croix que nous sommes délivrés de nous-mêmes, non seulement de nos péchés, mais de nous-mêmes. Et délivrés de nous-mêmes, nous sommes livrés à Christ, et Christ va donc grandir en nous. Alléluia. C'est un chemin douloureux, je suis d'accord. Mais l'issue en est bénie. Ceux d'entre nous qui, dans cette expérience, ont traversé la plus pénible agonie pourraient témoigner, nous en sommes sûrs, que tout ce qu'ils ont retiré de connaissances personnelles du Seigneur Jésus-Christ et de richesses spirituelles a bien plus de prix que tout ce qu'ils auraient pu conserver en échange à cette épreuve. Ainsi, l'œuvre du Seigneur pour nous, comme l'œuvre que le Seigneur accomplit en nous par sa croix, n'a d'autre objet dans la pensée divine que de faire place au Seigneur Jésus-Christ. L'autel des sacrifices dans le tabernacle comme dans le temple, était un grand autel, et c'était un autel très vaste, de très grandes dimensions. Tous les autres objets de la maison de Dieu pouvaient trouver place à l'intérieur de ce grand autel. Oui, l'autel, pour nous aussi, chers amis, doit être très grand. Il faut qu'il ait une grande place pour Christ crucifié. Il faut qu'il remplisse toutes choses, et il doit être la plénitude de toutes choses. Ne chantons-nous pas plein de joie souvent? Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Je répète, pour ceux qui se rappellent, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Que veut dire cela sinon, ce n'est plus moi, mais Christ est tout. Oui, l'explication de la croix, de l'œuvre de la rédemption accomplie sur cette croix est tout simplement celle-ci. Il faut que Christ soit tout et en tous. Il faut qu'en toute chose, il tienne le premier rang. Et c'est ensuite l'explication de nos expériences, la raison pour laquelle le Seigneur agit en notre égard comme il le fait, la raison pour laquelle les croyants passent par les épreuves qu'ils traversent, des épreuves que d'autres ne connaissent pas, et où ils sont quelquefois presque tentés d'envier les inconvertis qui ont une vie apparemment beaucoup plus facile. Le Seigneur sait comment agir avec chacun d'entre nous, et il varie ses méthodes en conséquence. Il dirige votre vie d'une manière et la mienne d'une autre manière. Il sait comment nous conduire à travers nos expériences qui sont toutes calculées pour nous amener à la place où le Seigneur est tout et en tous, chers amis, essayons de comprendre ce que veut dire la croissance spirituelle. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? Que signifie avancer dans notre marche avec le Seigneur Jésus? Nous avons, je le crains, des idées bien mélangées à cet égard. Nombreux sont ceux qui croient que la maturité spirituelle est une connaissance plus approfondie de la doctrine chrétienne, une faculté plus capable d'assimiler la vérité scripturaire, une compréhension plus vaste des choses de Dieu, la possession de capacités de cet ordre-là est facilement regardée comme une preuve de croissance, de développement et de maturité spirituelle. Or, il n'en est rien. La marque distinctive du vrai développement et de la maturité spirituelle, c'est que nous sommes devenus beaucoup plus petits et que le Seigneur Jésus-Christ a grandi en nous dans la mesure où nous avons diminué. Là voilà la marque de la maturité. Quand on est devenu, chers amis, petit à ses propres yeux et que l'on voit le Seigneur Jésus-Christ si grand, on est donc entré dans la maturité spirituelle. C'est ça, la croissance spirituelle. On peut avoir une grande connaissance en matière doctrinale, avoir une intelligence remarquable de la vérité scripturaire, tout en restant très petit spirituellement, en demeurant à l'état d'enfant, absolument dépourvu de maturité. Être ou devenir un enfant, comme le Seigneur nous y invite, ou rester dans l'enfance spirituelle, ce sont deux choses tout à fait différentes. Voyez-vous, la vraie croissance spirituelle est simplement ceci: je diminue et Christ, il grandit. C'est l'accroissement du Seigneur Jésus-Christ dans la place qu'il occupe et dans la valeur qu'il prend à nos yeux. Voilà, chers amis, la pierre de touche de la croissance spirituelle. Chers amis, beaucoup de personnes ont un gros problème avec l'Ancien Testament. Dans son ensemble, il est composé de symboles, de grandes figures, qui toutes représentent Jésus-Christ. Prenons les deux principales, par exemple le tabernacle et le temple. Eh bien, ces deux grandes figures sont des représentations du Seigneur Jésus dans sa personne comme dans son œuvre. Et comme telles, elles occupent donc la place centrale dans la vie d'un peuple. Voyez-vous, par manque de place, évidemment, sur un seul CD, nous donnons seulement, et on ne peut pas le faire autrement, un condensé sur ce chapitre, donc un résumé ainsi concernant le Nouveau Testament. On ne peut pas tout mettre sur un seul CD, mais il y en aura d'autres. Donc, concernant le Nouveau Testament, eh bien, le Nouveau Testament nous met en présence de petits groupes de croyants sans importance au milieu des peuples de la terre, méprisés, rejetés, incapables de se faire entendre sans être molestés et qui finissent par attirer sur eux la colère organisée de la haine. Oui, la haine des nations de ce monde, jusqu'au jour où toutes les ressources d'un grand empire de fer seront exploitées, utilisées et mobilisées pour balayer de la terre ce peuple humble et méprisé et faire disparaître de l'histoire son souvenir même. Et oui, or qu'est-ce qu'il arrive. Qu'est-il arrivé? Les empires se sont écroulés, les puissances du monde se sont effondrées, on passe maintenant d'un continent à l'autre pour visiter les ruines et les restes de ces grands empires. Et qu'en est-il de ces personnes, ces serviteurs de la voix? Traduction littérale de Actes, chapitre 9, verset 2. Ces disciples du Nazaréen méprisés, qu'en est-il? C'est une multitude immense que personne ne peut compter. Le ciel en est rempli et, sur la terre, ceux qui connaissent et aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui sont de ceux de la voix se chiffrent par des millions de personnes. L'explication, c'est que Dieu a voulu que son Fils bien-aimé soit tout et en tous, et qu'en toute chose, il tienne le premier rang. Si nous sommes en relation vivante avec le Fils de Dieu, les hommes et l'enfer peuvent faire tous leurs efforts, ils n'empêcheront jamais Dieu de parvenir à son but, et son peuple restera dans son ascendance et finira par triompher. Gloire à Dieu. Quelques explications encore concernant l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Dans la pensée de Dieu, ce n'est pas le christianisme tel que nous le connaissons. Ce ne sont pas les églises en tant que centre organisé du christianisme. Ce n'est pas non plus la propagation de l'enseignement chrétien et d'une entreprise chrétienne. Voyez-vous, la pensée de Dieu, c'est d'avoir sur la terre un peuple pour lequel et au sein duquel Christ est tout. Et on tous, c'est cela, l'Église. Il nous faut reviser nos idées. Dans la pensée de Dieu, l'Église commence là, et l'Église finit là, où le Seigneur Jésus-Christ a la place de suprématie absolue. Et ce que Dieu désire toujours, c'est de rassembler ceux de ses enfants qui entrent le plus pleinement dans sa pensée, afin de trouver en eux la satisfaction de son cœur et la réalisation de son dessein éternel, que le Seigneur Jésus-Christ, ayant toute chose, le premier rang, et qu'il soit tout et en tous. Oui, il est avec ceux, croyez-moi, qui en eux-mêmes ont un cœur humble et contrit, et qui tremblent à sa parole, ceux pour lesquels le Seigneur Jésus-Christ est le seul et unique objet de culte et l'adoration, et oui, le premier et le seul objet de culte et d'adoration, et dont le cœur s'élève tout simplement à lui. C'est cela. C'est là donc qu'il trouve la réponse à son désir éternel. C'est exactement, chers amis, ce que dit notre texte. Considérons-le encore. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Colossiens, chapitre 3, verset 11. Oui, là où chacun a revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle à l'image de celui qui l'a créé, pour parvenir à la pleine connaissance, selon le verset 19 de Colossiens 3, eh bien pensons, chers amis, au sens spirituel de ces passages, et nous verrons qu'il s'agit là de l'homme corporatif, l'Église, le corps de Christ, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et rappelons ici cet autre passage, L'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens chapitre 1 verset 23. Là, dans cet homme corporatif, il ne peut y avoir ni grec ni juif. Remarquons bien les termes. Il n'est pas dit que le grec et les juifs se réunissent dans une communion bénie. Non, nous n'avons pas toutes les nationalités dans l'Église, toutes les nationalités ont disparu. Il y a maintenant une seule et nouvelle création spirituelle, un homme nouveau, où il ne peut plus y avoir ni grec ni juif, ni esclave ni homme libre, où toutes les distinctions terrestres ont disparu, abandonnées pour toujours. C'est un seul homme nouveau, une seule femme nouvelle, c'est cela l'Église. Voyez-vous, une combinaison soigneusement arrangée où les luthériens, réformés, baptistes, méthodistes et protestants catholiques de toutes nuances se tendent la main et pour un temps, ils oublient leurs divergences. Ça, ce n'est pas l'Église. L'Église est là où ces choses n'existent pas, non pas où elles sont voilées provisoirement. Un seul corps, un seul esprit. L'Église, c'est uniquement Christ tout et en tous. Et si nous réalisons cela, chers amis, nous avons l'Église. L'on peut donner le nom d'Église à tout ce que l'on voudra. Mais tant que Christ n'y est pas absolument tout et en tous, ce n'est qu'une contradiction. C'est la pierre de touche. S'il est vrai que dans la pensée et dans le cœur de Dieu, la vie chrétienne se résume par ces paroles « Christ tout et en tous ». Une question se pose. Êtes-vous, chers amis, un vrai chrétien ? Suis-je, moi, un vrai chrétien ? Car nous venons de voir que, par la croix, nous avons disparu pour faire place au Seigneur Jésus-Christ. Or, si nous faisons profession d'être venus au Seigneur par le chemin du calvaire, cela signifie que nous avons été mis de côté par cette croix afin que Christ soit tout et en tous. Qu'en est-il en réalité? Eh bien, pour moi, j'ai encore besoin du monde. Oh, un peu seulement. En dehors du Seigneur, eh bien, je tiens encore à ceci et à cela. Et j'y tiens. Oui. Je tiens des propos délibérés parce que, quoi? Si on osait dire la vérité, eh bien le Seigneur Jésus ne m'a pas entièrement satisfait. Et je cherche ailleurs. Il me faut une compensation et d'autres philosophies religieuses. Et bien sûr, tout cela n'est pas vraiment être tous, tout en tous, et tous en tout. Être un chrétien mondain, c'est une violente contradiction, croyez-moi. C'est une contradiction de titre, car avoir besoin de quelque chose en dehors de Christ, croyez-moi, je crois, moi, que c'est renier le calvaire et prendre position contre l'intention éternelle de Dieu concernant Christ. Voulons-nous vraiment prendre une telle responsabilité? Je crois que Dieu a voulu, de toute éternité, que son Fils bien-aimé soit tout et en tous. Nous faisons profession d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, et cependant, il ne serait pas vrai qu'il soit pour nous tout et en tous. S'il en est ainsi, il y a un reniement, une contradiction, non? Nous nous opposons à la pensée de Dieu et nous résistons à son dessein éternel. Est-ce vrai que pour nous, chers amis, il est tout et en tous? Il le sera certainement si nous sommes prêts à aller avec lui jusqu'au bout. Oh, ces suggestions subtiles que des lèvres menteuses murmurent constamment à nos oreilles, si tu renonces à ceci ou à cela, tu vas tout perdre. La vie sera moins riche qu'elle ne l'est maintenant et qu'elle ne pourrait l'être dans l'avenir. Tu vas au-devant de telles limitations qu'il ne te restera plus rien pour finir. Ceci est un mensonge. C'est précisément cette crainte qui entrave la réalisation de la grande pensée de Dieu à notre égard. La pensée de Dieu pour nous, c'est que celui qui est son Fils Jésus-Christ, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, que lui, il soit notre plénitude. Oui, toute la plénitude de Dieu en Christ est pour nous. Nous n'atteindrons jamais ce but en le rejetant. Si nous le rejetons, nous n'aurons jamais ce but. Si nous n'allons pas avec lui jusqu'au bout, chers amis, notre vie sera certainement limitée et amoindrie. Et ce qui est vrai dans la question de notre consécration au Seigneur, un abandon complet de notre vie entre ses mains et donc la séparation, car nous devons nous séparer d'avec tout ce qui n'est pas du Seigneur. Ça, c'est un problème. Et aussi, cela est vrai dans le domaine du service. Notre chair aime, oh oui, à se faire une place dans l'œuvre de Dieu, et elle ne se lasse pas de nous répéter que si nous voulons dépendre du Seigneur seul, en lui seul, nous connaîtrons des jours d'anxiété. Mais une vie de complète dépendance de Dieu peut être merveilleuse. C'est dans ce chemin-là que nous faisons presque à chaque pas des découvertes qui nous laissent toujours plus émerveillés. Voyez-vous, nous pouvons nous sentir à demi-morts à un moment donné, ça nous arrive. Et 5 minutes après, si le Seigneur nous confie quelque travail, nous recevrons un renouveau de vie, dépendant ainsi de lui pour chaque mouvement et pour l'air que nous respirons. C'est ainsi que nous apprenons à connaître le Seigneur. Puis après cette expérience, nous pouvons nous sentir de nouveau aussi impuissants et anéantis que précédemment, mais nous nous souvenons que le Seigneur était intervenu. Et oui, et le Seigneur intervient encore et encore. Quelle bénédiction que de savoir que c'est le Seigneur qui a tout accompli et que livrés à nous-mêmes, nous n'y serons jamais parvenus. Nous serions jamais parvenus à certaines choses sans l'aide de notre Seigneur. Ce qui, sur le plan humain et terrestre, est impossible, eh bien le Seigneur l'accomplit. Quelle bénédiction quand même! Prolongeons ces réflexions, chers amis, dans le domaine de l'Église. Appliquons la pierre de touche. Par nous, je parle ici sans aucun esprit de jugement ou de critique, ne désirons pas faire des distinctions inopportunes, car mon seul désir est d'être fidèle aussi pour nous. Notre foyer spirituel doit être là où le Seigneur Jésus-Christ est le plus honoré. Et la dénomination religieuse ne sera pas le plus important du moment que c'est Jésus-Christ qui y est honoré. Notre communion fraternelle doit être là où Dieu trouve ce que satisfait le plus son cœur, ou que Christ est tout et en tout. C'est cela qui doit être l'Église pour nous. Il ne faut pas que notre foi soit altérée en quelque sorte. Absolument pas. C'est là où le Seigneur est le plus honoré que doivent être nos cœurs. Là, oui, là, où tout est subordonné à cette réalité centrale. Jésus-Christ, tout et en tous, c'est là qu'est l'Église. Et c'est là que doit être le centre de gravité de nos cœurs. Le lieu où Dieu déposera son témoignage et par lequel il manifestera aux autres la puissance de ce témoignage doit être le lieu où le Seigneur Jésus-Christ est le plus honoré. Si nous sommes en plein accord avec le dessein de Dieu concernant son Fils bien-aimé, c'est à nous que viendront ceux qui sont affamés spirituellement, et nous ne manquerons pas d'occasion de leur donner cette nourriture céleste qui nous a si abondamment satisfait. Souvenons-nous, chers amis, que tout ce qui se rapporte à la vie chrétienne n'est pas uniquement une affaire doctrinale. Tout ce qui touche au Seigneur Jésus-Christ est essentiellement expérimental. Ce n'est pas que ce n'est pas seulement doctrinal, mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous soumettre aussi aux critères, aux doctrines et aux enseignements bibliques. Au contraire, ce n'est pas une question de credo. Le fait d'accepter certaines déclarations de doctrine ou de croyance ne nous mettra pas en relation avec le Seigneur Jésus-Christ d'une façon personnelle. Nous ne devenons pas chrétiens en souscrivant à certaines doctrines ou en adhérant à une profession de foi orthodoxe, non plus qu'en croyant certaines choses qui nous sont dites du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de cette manière-là que nous devenons des chrétiens, et ce n'est pas sur cette base qu'est constituée l'Église, bien qu'elle professe certaines règles de foi. Heureusement, il faut que chaque élément de notre foi devienne partie de nous-mêmes et que nous soyons nous-mêmes un élément vivant dans notre foi. Il n'est pas suffisant de croire que Christ est mort sur la croix. Il faut que ce fait entre profondément dans notre vie personnel et devienne une expérience, une action puissante, une force qui opère et qui agit dans tout notre être. On ne peut pas réunir quelques personnes en leur disant simplement « Voici quelques considérations parfaitement saines, nous allons constituer notre Église sur cette base. » Mais non! L'Église est là où les vérités bibliques sont descendues de notre cerveau jusque au plus profond de notre cœur et de notre âme. Je répète, voyez-vous, l'Église est là où les vérités bibliques vont descendre de notre cerveau jusqu'au plus profond de notre cœur et de notre âme. Quand l'enfer se lève pour projeter contre les enfants de Dieu les miasmes de la division, ce n'est pas un credo qui sauvera l'unité menacée. Le credo le plus ultra-évangélique n'a jamais réussi à assurer la cohésion d'un groupement de chrétiens. L'unité de l'Église se forge d'autre façon. C'est le fruit d'un travail de Dieu accompli en nous, au-dedans de nous. Sans cette unité-là, rien ne pourra résister aux esprits de division et de schisme qui nous assaillent. il faut que tout ait son fondement, non pas seulement dans la doctrine ou la profession de foi, mais dans une conversion personnelle. C'est la nouvelle naissance. Chers amis, avant de terminer, je vous prie de lire tranquillement les versets suivants dans votre Bible. Saint Matthieu, chapitre 18, verset 11. Saint Jean, évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. Actes, chapitre 4, verset 12. Romains, chapitre 10, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Et Hébreux, chapitre 2, verset 3. Oui, c'est une chose toute autre lorsque ces mêmes paroles que vous allez lire sont le fruit d'une expérience personnelle. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'y parvenir. Le dernier appel que j'adresse ici à nous tous, c'est que nous nous unissions tous pour élever tout à nouveau le Seigneur Jésus sur le trône qui lui appartient, afin qu'il règne en souverain suprême dans notre cœur, dans notre vie, dans toutes nos relations. Si nous avons retenu quelque chose dans notre don de nous-mêmes, cédons aujourd'hui, cédons notre cœur au Seigneur, donnons-nous à lui. Si nous avons encore certaines réserves dans notre cœur, brisons les barrières. Si nous avons été jusqu'ici partagés entre le Seigneur et le monde, ou entre lui et un objet que nous chérissons, mettons-y dès maintenant le point final, afin qu'il soit, lui, Jésus-Christ, tout et en tous. Qu'il en soit ainsi dès ce moment, et que, dans nos relations avec le Seigneur, nous continuions sur une base toute nouvelle. Voulons-nous le faire, chers amis? Demandons au Seigneur de briser jusqu'au lien le plus tendre qui pourrait faire obstacle à ce qu'il soit tout et en tous. Oui, sommes-nous prêts, chers amis, à faire cela même? Que le Seigneur nous en fasse la grâce. Amen. Amen.